À l'écoute de Radio France Internationale, il est 20h à Paris, 18h en temps universel. Le journal international avec vous, Véronique Rigolet, bonsoir.
Bonsoir Marion, bonsoir à tous. Et à la une ce soir, alors que Poutine parade à Kazan avec ses soutiens et ses partenaires des BRICS, les Européens, eux, accordent un prêt de 35 milliards d'euros à l'Ukraine. Un prêt qui sera pour la première fois financé par les avoirs russes gelés dans le cadre des sanctions européennes contre Moscou. La présidentielle américaine a 15 jours tout juste du scrutin. Kamala Harris et Donald Trump sont toujours au coude à coude et ce sont peut-être les petits candidats qui pourraient alors jouer les faiseurs de rois. Enfin, en France, va-t-on autoriser les casinos en ligne? C'est en tout cas la proposition qui fait polémique à l'Assemblée en plein débat sur le budget 2025. Les Européens ont donc dit oui à un prêt de 35 milliards d'euros à l'Ukraine, un vote à une très large majorité aujourd'hui à Strasbourg. 518 voix pour, 56 contre. Et pour la première fois, eh bien, ce prêt sera financé par les profits dégagés par les avoirs russes gelés dans le cadre des sanctions européennes contre Moscou. Les 27 États membres avaient déjà dit oui la semaine dernière. Et aujourd'hui, ce sont donc les eurodéputés qui ont donné leur feu vert. À Strasbourg, les précisions, Jean-Jacques Héry.
Avec ce nouveau mécanisme, on va se servir non pas directement dans les 280 milliards d'euros d'avoirs russes gelés au sein de l'Union européenne, c'est compliqué pour des raisons juridiques, mais on va prélever les intérêts que rapportent ces sommes, soit entre 2,5 et 3 milliards d'euros par an, qui vont permettre de garantir ce prêt à l'Ukraine, ce dont se réjouit Raphaël Glucksmann, eurodéputé social-démocrate.
C'est la première fois que la Russie va payer, en fait, va payer pour le soutien à l'Ukraine. Et donc on a enfin franchi une étape dans le soutien à l'Ukraine et enfin franchi une étape dans le message envoyé à la Russie qu'elle payera pour toutes les destructions commises en Ukraine.
Raphaël Glucksmann voudrait même voir l'UE aller plus loin jusqu'à une saisie de l'ensemble des avoirs russes gelés dans les banques européennes, soit 280 milliards d'euros. Pour Mounir Satouri, député vert, il faudrait en parallèle mieux appliquer les sanctions déjà existantes.
Faire un embargo réel et total sur le gaz et le pétrole en provenance de la Russie. Parce qu'on a du gaz qui transite par l'Azerbaïdjan, qu'on continue à recevoir chez nous en tant que consommateurs européens et européens. Et c'est de l'argent qui rentre dans les caisses de Poutine.
Le vote d'aujourd'hui a remporté un large consensus dans l'hémicycle, sauf à l'extrême droite. L'eurodéputé français Thierry Mariani, des Patriotes pour l'Europe, déplorant ainsi un prêt imposé par la Commission européenne pour maintenir en vie un État déjà gangréné bien avant la guerre par la corruption. Jean-Jacques Héry, Bruxelles, RFI.
Et pendant que l'Europe arme l'Ukraine, Vladimir Poutine, lui, se pose en véritable chef d'orchestre diplomatique à l'ouverture du sommet des BRICS à Kazan. C'est dans le Tatarstan, sur les bords de la Volga, avec la réception de délégués de 38 pays, dont une vingtaine de chefs d'État. Le président russe entend faire de cette réunion annuelle du groupe des pays émergents la démonstration que la Russie n'est pas isolée malgré les sanctions occidentales. Depuis l'invasion de l'Ukraine, il y a presque 3 ans. Et parmi les premiers arrivés, le président africain, sud-africain, Ramaphosa, a qualifié la Russie d'allié et d'ami précieux devant un Poutine tout sourire, le président russe, qui a ensuite assuré son homologue chinois Xi Jinping et bien vouloir renforcer les liens avec Pékin, qualifié par lui de facteur de stabilité mondiale. La Chine qui pourtant continue d'intimider et de menacer Taïwan une semaine jour pour jour après des manœuvres chinoises d'encerclement à grande échelle qui avaient mobilisé un nombre record d'avions et de navires autour de l'île nationaliste, eh bien l'armée chinoise a mené ce mardi des exercices avec des tirs à munitions réelles. Une nouvelle démonstration de force par Pékin, qualifiée par Taipei de menace pour la stabilité régionale. Les précisions de Yelena Tunich.
Les exercices avec des tirs à munitions réelles ont duré 4 heures dans une zone d'environ 150 km² et à seulement une centaine de kilomètres des côtes taïwanaises. Mardi dernier, selon les termes du commandant de la flotte militaire taïwanaise, l'amiral Tang, l'armée chinoise avait usé d'une stratégie de l'anaconda pour étouffer l'île. L'opération visait à démontré à Taipei, mais aussi à son soutien principal, Washington, que Pékin était en mesure d'imposer un blocus en un temps record et de prendre le contrôle de l'île par la force si nécessaire. Face à un nouveau président taïwanais considéré comme séparatiste, Pékin joue la carte de la coercition militaire. Ne laisser aucun répit aux autorités politiques et militaires. Dans ce contexte, Taïwan a récemment et pour la première fois fait étalage de ses propres moyens de dissuasion, des missiles anti-navires et anti-défense aérienne. Parallèlement, l'armée américaine, tout en resserrant ses alliances avec Tokyo et Manille, ne cesse de renforcer ses capacités de surveillance et d'intervention à proximité de l'île.
Au Proche-Orient maintenant, pour sa 11e tournée diplomatique, la dernière avant les élections américaines, Anthony Blinken multiplie les efforts pour tenter d'arracher un cessez-le-feu dans la région, alors que rien ne semble pouvoir enrayer l'escalade militaire. Le chef de la diplomatie américaine a ainsi rencontré le premier ministre israélien Netanyahou aujourd'hui à Jérusalem, l'exhortant notamment à tirer parti de la mort du chef du Hamas, Yahya Sinwar, pour relancer les négociations. Un calendrier pour l'heure toujours rejeté par le gouvernement israélien, hein, qui paraît bel et bien déterminé à infliger le maximum de pertes au Hamas et au Hezbollah avant justement cette échéance de l'élection américaine du 5 novembre prochain. Aux États-Unis, le sprint final est donc engagé entre Trump et Harris, à 15 jours d'un scrutin qui s'annonce toujours ultra serré. Les deux candidats, républicains et démocrates, mettent donc les bouchées doubles. Kamala Harris en interview aujourd'hui, Donald Trump avec des électeurs latinos en Floride, alors que les derniers sondages donnent une très légère avance à la vice-présidente, 46% contre 43% pour l'ancien président américain. Et dans ce coup à coude, eh bien, ce sont finalement les résultats des petits candidats qui pourraient offrir la victoire à l'un ou à l'autre, et notamment la candidate du Parti vert, Jill Stein, qui concourt dans 6 des 7 États où va se décider le scrutin, et que les démocrates accusent en tout cas de faire le jeu de Donald Trump. Explication François-Damien Bourgerie.
That's why a vote for Stein is really a vote for Trump.
Depuis le 12 octobre, les électeurs de Pennsylvanie, du Michigan et du Wisconsin peuvent voir à la télévision un clip de campagne du Parti démocrate qui les met en garde contre le vote Jill Stein. La candidate du Parti vert ne pèse pourtant qu'un pour cent des voix à l'échelle nationale. Mais dans une élection qui se jouera dans 7 États pivots et à seulement quelques milliers de voix près, rien n'est laissé au hasard, comme l'explique Vincent Michelot, professeur d'histoire politique des États-Unis à Sciences Po Lyon.
Les deux candidats, ils craignent un déplacement de 20 000 ou 30 000 voix. Donc les deux sont totalement focalisés sur ces micro-segments de l'électorat qui peuvent faire basculer l'élection dans un sens ou dans un autre.
Avec son discours farouchement opposé à la guerre menée par Israël à Gaza et au Liban, Jill Stein séduit les électeurs musulmans qui avaient voté pour Joe Biden il y a 4 ans, et qui dénonce aujourd'hui le soutien inconditionnel apporté par Washington à l'État hébreu. Mais ce n'est pas le seul électorat susceptible de voter pour elle, explique Vincent Michelot.
C'est vers elle que sont susceptibles de se tourner des électeurs qui sont essentiellement des électeurs jeunes et plutôt ancrés très à gauche du côté démocrate.
De son côté, Donald Trump ne peut que savourer. « Jill Stein, je l'aime beaucoup », déclarait-il lors d'un meeting à Philadelphie en juin dernier. Vous savez pourquoi ? Parce qu'elle leur prend 100% des voix.
En France, le projet de budget 2025 continue à être âprement débattu à l'Assemblée nationale, avec parmi les sujets délicats celui qui crée polémique. Les casinos en ligne pourraient être autorisés, c'est ce que propose un amendement de l'exécutif. Objectif, assécher le marché illégal et permettre, avec une offre légale, de récolter de nouvelles recettes. Proposition vivement dénoncée par Fédération Addiction. On écoute sa déléguée générale, Marie Ungen-Rombaldi.
On est très surpris par la forme, puisque c'est un amendement qui arrive comme ça, un petit peu sorti du chapeau, sans concertation. Et on est vraiment surpris, vu l'importance et l'enjeu de cette proposition, quand on connaît les risques d'addiction qui sont associés au jeu de manière générale, et a fortiori au jeu quand ils sont en ligne. Nous, à la Fédération Addiction, on n'est pas pour les interdictions à tout prix. En fait, on prône une politique de régulation. Et une politique de régulation, c'est ne pas prendre des décisions à la va-vite, mais les travailler avec l'ensemble des parties prenantes, dont les acteurs de l'addictologie que nous représentons, les personnes concernées, bien évidemment, et aussi l'autorité de régulation. En fait, nous, ce qu'on souhaite, c'est un débat en amont. Et une fois que tout le monde a débattu, là, on peut faire des propositions de loi, des propositions d'amendements.
Des propos recueillis par Valérie Cohen. 20h10 à Paris. Dans un instant, c'est Mardi Politique avec le sénateur Patrick Kanner.